www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre.
Voilà, nous sommes de retour depuis Syrtakis, c'est comme ça qu'on appelle, hein, ouais, la musique grecque là qui nous englobe, nous enrobe. Donc nous sommes en direct et en public depuis le site de la Parfumerie. La Parfumerie, on l'a dit, c'est un théâtre, mais bien plus que ça, c'est un, pourrait-on dire, un centre culturel ici à Genève qui siège au 7 chemin de la Gravière à côté de la police. Et il s'y passe aujourd'hui une grande soirée de truck. C'est le deuxième jour, on en a parlé tout à l'heure avec Simon. Et on rappelle donc que Simon et Isa sont à l'initiative de SIPI et que SIPI, c'est une association qui justement organise ce genre de grande journée de truck où on peut également boire un coup, chiner, grignoter et puis rencontrer des gens et qui a une ambiance absolument conviviale. On l'a dit tout à l'heure hein, lors du petit entretien avec... Avec Simon, c'est vraiment un plaisir. Hier, il y a eu beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Alors si par hasard, si d'aventure, tu tiens encore derrière ton laptop en train de préparer un truc, eh bien, lâche l'affaire et rejoins-nous sur le site de la Parfumerie. Voilà. Alors, nous en sommes arrivés au deuxième temps de cette émission qui en compte trois. Le troisième temps, on peut d'ores et déjà l'annoncer, nous recevrons quatre personnes de l'école vivante. L'école vivante, c'est l'école démocratique du canton de Genève, une école qui est inspirée de la philosophie Sudbury. Sudbury, on peut dire que c'est voisin de Montessori, un petit peu de Steiner, même si c'est un peu moins Steiner et un petit peu plus, je dirais, Célestin Freinet, hein, la pédagogie libertaire. Donc on va parler d'école tout à l'heure, mais avant cela... Eh bien, nous sommes en compagnie de Francesca, notamment. Alors, je dis que Francesca, je ne sais pas si tu voulais quand même te présenter ou pas.
Oui, Dominique.
Alors, donc voilà, Dominique, bienvenue. Ouais, comme je ne t'ai pas posé la question avant, je ne voulais pas le faire sans que tu ne me l'autorises. Alors, Francesca, tu es là et Dominique en soutien, hein, d'une certaine manière. Alors, nous allons parler de deux choses. Hein. En tout cas, nous allons parler des sans-papiers, hein, les signes papeles, une rencontre que tu as pu faire via l'association que tu as fondée, Francesca, qui s'appelle Suisse Gambia
Solidarity.
Voilà. Alors, ben, écoutez, peut-être que Francesca, tu vas commencer à te présenter toi-même et à nous en dire un petit peu plus sur cette association.
Oui, tout d'abord, merci pour le Syrtaki.
On ne l'a pas fait exprès, en fait, ce n'est pas nous. Hein. Mais on est contents.
Quand même, hein. C'est merveilleux. Donc, notre association Suisse Gambia Solidarity a une année et demie d'existence et c'est une association de coopération avec la Gambie. Pourquoi avec la Gambie seulement? Pour centrer notre action. Le message qu'on passe, c'est pour arrêter les voyages de la mort, ce qu'on appelle, la Bakoué, pour créer des emplois et des activités sur place. Donc cet été, à tout hasard, nous sommes partis en vacances, en Costa Brava et plus exactement à Blanes, une petite commune sur la côte de Catalogne et nous avons rencontré ce collectif par un autre membre de Suisse Gambia qui habite sur place. C'est un mouvement qui en réalité existe en Espagne depuis 2000 ans, celui des sans-papiers qui a l'habitude d'occuper des églises, des cathédrales, voilà. Mais celui-ci spécifiquement est né d'une situation très spécifique de ce village qui s'appelle Blanes, justement, et qui compte environ 25 personnes habitant dans une église, l'église de Santa Maria. Ce n'est pas une vraie occupation parce que le curé a donné son accord. Et... D'ailleurs, nous sommes ravis de rencontrer des gens qui font de la religion
quelque chose de
concret, bien,
ouais, tout à fait.
De bien, de cohérent. Et puis, on est vraiment content d'avoir connu Monseigneur Henrique.
Les autorités de la ville, est-ce qu'elles ont déjà pris parti? Est-ce qu'elles se sont déterminées ou pas encore?
Très compliqué. Alors, dans un premier moment, toutes les entités qui étaient comme la commune, comme les services sociaux, et même jusqu'à aller à la Generalitat, se sont montrées très intéressées au projet. D'autant plus que le curé avait pas seulement donné une salle à disposition, mais avait aussi offert la possibilité aux sans-papiers d'élire domicile légal dans l'église, que c'est le premier pas, le domicile légal, pour une future légalisation. Donc il y a eu de la part des autorités un premier élan, et puis quand les choses ont commencé à se concrétiser, une petite marche en arrière. Mis à part de la part de la Generalitat de Gironde spécifiquement, qui a quand même entrepris un programme et qui a fortement sollicité les services sociaux. À ce sujet, Swiss Gambia a travaillé très dur parce que la Generalitat a proposé trois différents programmes. Deux, c'était plutôt comme des programmes de travail. Donc un pour les juniors en dessous de 26 ans et un autre pour les seniors, mais évidemment il n'y avait pas assez de place. Donc ils nous ont demandé de faire un tri parmi les cas. Hein. Et parce que certains pouvaient remplir éventuellement les critères de réfugiés politiques. Alors, déjà, petite prémisse, nous avons demandé une garantie à ce sujet-là. Parce que souvent, quand on fait une demande d'asile politique, après on est débouté. Hein.
Oui.
Donc nous avons demandé des garanties à la Generalitat qui s'est engagée dans ce sens. Cela a fait que nous avons dû avoir des entretiens avec chaque personne et c'était pas facile, surtout pour eux, de parcourir de nouveau le voyage qu'ils ont entrepris et surtout les tortures, les...
Ouais, parce que justement, ouais. voudrais-tu ouais. préciser qui sont les personnes qui ont trouvé refuge dans cette église, qui sont-elles et d'où viennent-elles?
Alors, il faut savoir déjà que tout premièrement, la première route de l'immigration est Libye-Italie. Mais que l'Italie ne représente qu'un lieu de passage où après les étrangers décident de migrer vers soit des pays du Nord, soit vers l'Espagne, parce qu'il y a quand même une certaine facilité à régulariser, au moins une facilité légendaire à régulariser sa situation. Dans ce cas, pour ces 25 personnes, la plupart des personnes viennent de Gambie. Avec des petites exceptions, Ghana, Nigeria,
ouais.
Voilà.
Et puis, quel type de population? C'est plutôt des hommes, des femmes, des...
En fait, le 99%, c'est des hommes.
Ouais.
Et il y avait une seule fille de Nigeria. Ce qui est signalé aussi sur la moyenne générale, c'est que ils ont presque tous entrepris le voyage en étant mineurs accompagnés, parce que ce n'est pas des voyages EasyJet qui s'accomplissent au bout de 3-4 heures, mais au bout de mois, voire années. Donc la plupart, ils ont effectué le périple des pays africains et pour après traverser le désert, pour après être emprisonnés en Libye et puis passer aussi... une période de sans domicile fixe en Italie.
D'accord. Alors dis-moi, au sein de cette église, comment se passe une journée habituelle de ces personnes? Ce que je veux dire, c'est que quand on est 25, on est quand même nombreux, il faut organiser des choses, il faut organiser la nourriture, le temps peut paraître très vite très long. Alors de quelle manière ces personnes se sont-elles organisées? Ça, c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, c'est la population locale. S'est-elle impliquée, les associations, la population? Et y a-t-il plutôt du soutien ou c'est compliqué?
Concernant l'organisation... à l'intérieur de ce qu'on appelle encierro, non, en espagnol, c'est assez magnifique parce que bon, l'église a mis à disposition une énorme salle où la plupart dorment dedans en commun. Le réveil sonne vers les 4h30 du matin parce que la plupart des gens sont employés dans les champs. et donc surexploité, je rajoute. Certains sont employés dans l'hôtellerie et ne sont pas moins exploités, mais ils ont un peu d'autres horaires. Toute l'organisation se passe d'une façon assez spontanée qui marche plutôt bien, mm-hmm. en fait. On prépare la bouffe tous ensemble, on va compléter les ingrédients pour la bouffe tous ensemble, quelqu'un d'autre va laver les assiettes. Enfin, il y a une très belle dynamique à l'intérieur de ce petit groupe.
D'accord. Mais dis-moi, ces alignements...
Oui, justement. Voilà. Justement, et ça c'est la beauté parce qu'il y a eu de l'intervention de la part des autorités, mais aussi des structures comme Caritas de Girona qui assure une base d'aliments, mais aussi des dons des privés. En fait, moi j'ai passé presque 2 mois là-bas et quasiment tous les jours il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte pour ramener que ça soit des draps, des couvertures, des coussins, des sacs de riz ou bien ce qui est important pour la vie du quotidien. Pour le reste, les gens font des collectes. Il faut rappeler entre eux. Hein. Il faut se rappeler qu'ils ne peuvent pas vraiment cotiser complètement à leur nourriture parce que souvent, ils sont dans des démarches administratives qui leur coûtent quand même de l'argent et que surtout, ils travaillent, mais surexploité.
Oui,
donc pour une journée dans les champs, la paye elle peut varier de 20 à 30 euros, mais 7-8 heures et à rythme forcé. Quoi. Ouais.
La population locale, qu'est-ce qu'elle en dit de ces personnes-là? Donc tu l'as dit, certaines personnes se présentent spontanément avec des dons. Est-ce qu'en général, il y a plutôt un soutien, pourrait-on dire, même tacite, ou il y a quand même des tensions qui surgissent?
Moi, je n'ai vu aucune tension. Blanes, c'est un exemple, un peu comme, je pense, je peux parler de la Catalogne, parce que le reste de l'Espagne, je ne le connais pas. Mais à part un soutien tacite, il y a un soutien vraiment concret, parce qu'il y a plein de petits mouvements qui se sont...
Ouais,
présenter quoi,
ouais,
oui d'accord. Parce qu'en fait rien qu'aujourd'hui d'ailleurs je profite pour annoncer ça, une initiative, une fête de rue a été organisée sur la promenade à côté de la mer pour justement récolter du matériel pour ou de la nourriture ou des médicaments enfin pour l'encierro. Et moi, j'ai vu un défilé de plusieurs partis politiques et institutions, mais aussi de privés. Donc, je peux citer Blanes Solidari, je peux citer CUP, Blanes en Comú, la PAC des Blanes, qui c'est aussi une autre plateforme très intéressante d'aide à tous les migrants, légaux et illégaux. En fait, la PAC de Blanes apporte en concret une aide pour une habitation digne. Ça veut dire que quand par exemple un migrant manque de courant ou il a aussi des pannes chez lui, qu'il soit dans son domicile légal ou dans une maison occupée, la PAC de Blanes intervient pour garantir un mode de vie digne. Donc d'accord. Brancher l'eau, brancher le courant, etc.
Donc il y a plutôt des bons signes qui sont... qui remontent, je veux dire, qui sont restitués.
Extrêmement.
Extrêmement. C'est... Dis-moi, alors, quelques questions sur les problèmes, j'imagine, qui doivent surgir, mais concernant, par exemple, la langue. Les Gambiens, oui. A priori, parlent anglais.
Oui.
Là, on parle espagnol, a priori, catalan. Comment ouais. Ça se passe
Eh bien, ça, c'est un autre bel exemple de solidarité, de participation en première ligne. Il y a un ancien professeur qui fait partie de Blanes Solidari qui vient donner des cours de castellan toutes les semaines. D'ailleurs, j'ai les cours, je les suis aussi.
T'en profites.
Oui, bien sûr.
Ah là là, c'est blanc, c'est européen, qui profite de
quoi.
Tout là.
C'est clair. Oui, d'autant plus que moi, j'ai dû présenter le dossier pour ces 25 personnes à la Generalitat. Donc, j'ai eu oui. besoin d'une petite aide.
Bien sûr.
Oh, ouais, donc, voilà, la solidarité, en fait, de la population se manifeste à travers toute forme de choses, quoi. Mmh. Des dons, d'argent, de nourriture, d'objets, mais aussi d'initiatives comme celle-ci. Mmh. Que pas seulement favorise une future intégration, mais aussi occupe le temps et donne
et oui.
un minimum d'espoir à des gens qui sont, je pense, au bout de leur voyage, parce que après une longue, une aussi longue traversée qui a aussi impliqué d'autres pays européens, ils se retrouvent un peu face à la désillusion du rêve européen.
Alors, j'allais venir à cette question-là, mais avant cela, je voulais encore... donc là, on a parlé des langues, t'interroger sur des choses très concrètes du quotidien. Qu'en est-il des soins? Parce qu'effectivement, on tombe malade, ou alors on se fait mal au travail, on est fourbu, on se fait voilà, une foulure, on se blesse. Ah. Alors, de quelle manière est-ce que ça s'est organisé?
Oui, effectivement, celle-ci était l'une des négociations que nous avons entreprises à la première rencontre avec la Generalitat, parce qu'auparavant, il s'est avéré que deux personnes étaient malades et les permanences médicales de Blanes se comportaient de façon aléatoire. Soi-disant, une première les a refusées tout court et la deuxième a juste mis à disposition une infirmière. À notre première rencontre avec la Generalitat, nous avons tout de suite négocié le fait que ces personnes puissent avoir des soins et en fait, la Generalitat nous rappelle aussi que les soins de première d'urgence, quoi, d'urgence sont quand même garantis, mais qu'ils allaient faire un appel à l'ordre pour l'application de cette loi et qu'ils allaient même un peu plus loin. Maintenant, mes dernières nouvelles me disent que la Croix-Rouge est allée faire une visite et donc il y a un suivi qui petit à petit va se mettre en route.
Ok, je voulais te questionner sur un problème qui a émergé d'une manière extrêmement tragique en Italie très récemment. En Italie, il y a des cultures de tomates dans le sud, avec souvent des personnes d'Afrique subsaharienne engagées dans des conditions scandaleuses et qui sont menées d'un champ à l'autre. Alors il y a cela, une semaine, une camionnette remplie de personnes migrantes, dans des conditions évidemment d'intransportabilité et d'insécurité évidentes, a été renversé par un camion, il y a eu 13 morts. Comment est-ce qu'on organise les transports quand les personnes doivent se mobiliser? Et y a-t-il une forme de... On sait que c'est important pour chacun de nous, là, une forme de sécurité. Je veux dire, quand je parle de sécurité, c'est-à-dire de ne pas mourir sur la route, quoi, je veux dire, par exemple. Comment ça se passe de ce côté-là? Quand on va au travail, quand on revient, etc., etc.
Alors, tout d'abord, en Italie, la situation est vachement, vachement pire parce que l'organisation du travail rural est gérée par la mafia, notamment dans le sud, et on appelle ce phénomène le caporalato. Et d'ailleurs, les Italiens y sont soumis aussi.
Tout à fait.
Pour ce que j'ai pu voir à Blanes, les gens se déplacent de façon indépendante, ils ont souvent un vélo, donc ils y vont tout seuls. Or maintenant, je voudrais souligner une chose très importante sur les critères de sécurité. Et je reviens un peu aux interviews affreuses que j'ai dû faire par rapport à ce que les gens ont vécu et passé. Ils ont toute une autre idée de ce qui est juste, de ce qui est sûr. Et donc, parfois, ils se mettent eux-mêmes dans des situations qui ne sont pas sûres du tout. Par inconscience, parce que voilà, je sais pas si j'arrive à exprimer le concept. Ils en ont tellement passé que pour eux tout est normal. Et tout
bien
ce qu'on
sûr.
Rencontre ici en Europe, pour eux, mauvais qu'ils soient, c'est toujours meilleur de ce qu'ils ont dû endurer il y a quelques mois auparavant.
Est-ce qu'on sent quand même parmi eux une forme de désillusion lorsque on constate que finalement on est loin de l'Eldorado qui leur a été promis ou en tout cas qu'on a laissé entendre?
À quelque part oui, à quelque part bien sûr, parce que maintenant ils se confrontent à la réalité papier, que si t'en as pas c'est comme si, que... En même temps, ils travaillent. Mmh. En même temps, ils mangent tous les jours. En même temps, s'ils ont besoin d'un soin d'urgence, ils ne vont pas mourir pour le manque d'un antibiotique de base comme l'amoxicilline, par exemple, ce qui arrive couramment en Afrique. En fait, ça, c'est des évaluations que nous, les Européens, pouvons faire, mais que
on n'a pas les mêmes critères.
Voilà.
Ouais, bien sûr. C'est horrible de se dire ça quand même, hein. D'en arriver à se dire que dans une situation de telle précarité, eh bien, on peut même là se sentir au bout du compte. J'ose pas dire le mot, quoi.
Mais... Ouais, non, mais bon, voilà. En même temps, moi, ce que j'apprécie, c'est que à Blanes, il doit y avoir bien plus qu'un millier de sans-papiers et à longue durée, dont beaucoup de femmes avec des enfants, et la situation perdure depuis au moins une décennie. Mais ces jeunes, ils se sont impliqués en première ligne, en risquant aussi à quelque part pour lutter, pour dire non, nous sommes là. Et voilà, je trouve que c'est remarquable.
Alors, et comment habite-t-on le temps? Je veux dire qu'ici, nous, avec la Libre Radio, on a pu à plusieurs reprises déjà parler avec des personnes, des groupes de personnes en exil. Alors on pourrait citer, parce que je sais qu'on peut le dire librement à la radio, par exemple Franck Thomas, où entre eux finalement ils ont trouvé des modalités d'organisation extrêmement efficaces. Et à Franck Thomas, ben maintenant il y a le potager, il y a la salle de repos, il y a le tournoi de baby-foot et de foot, il y a plein de choses comme ça qui font que les temps libres, le loisir, ce temps qui était un temps où les tensions montaient à un moment donné parce que à force de ne rien faire, eh bien, ou de ne pouvoir rien faire, eh bien, on voit que les échanges ont lieu, que les transferts de savoir ont cours et du coup, eh bien, il y a une dynamique extrêmement positive. Est-ce que ça se passe de la même manière un petit peu comme ça à Blanes?
Mais non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que dans le sud de l'Europe, la vie se passe d'une façon très très différente. En fait, ici en Suisse, par exemple, mais malheureusement aussi en Italie, qui fait partie de l'Europe du Sud, il n'y a pas des réalités comme ça, comme en Espagne, pour les étrangers, dans le sens que ils sont illégaux, mais ils sont quand même tolérés, parce qu'ils ont eu la place dans une église, ils ont la place à des négociations avec les institutions. Et donc, eux, ils mènent une vie presque tout à fait normale, parce qu'ils ont quand même leur travail, même s'ils sont exploités, donc voilà, ils ont un autre rythme de vie. Après, c'est clair que dans l'insière, on organise aussi des activités de loisirs pour ou de suivi plus concrète, parce que il y a aussi un projet qui se met petit à petit en place d'aide psychologique, de soutien psychologique à ces jeunes. Donc, voilà.
Les enfants, il y a l'école, il n'y a pas l'école, il y a le travail déjà, comment ça se passe?
Donc, dans l'insière, il n'y a aucun enfant. La seule enfant, c'était la présidente qui nous suit partout. Mais à Blanes, par exemple, on répète, il y a vraiment beaucoup de familles, surtout de femmes seules avec des enfants. Ils sont quand même inscrits à l'école, mais la plupart de leurs journées sont abandonnées à eux-mêmes dans la rue. Et ça, c'était une autre négociation qu'on a effectuée avec la Generalitat à notre première rencontre, puisqu'il y avait le collectif des femmes subsahariennes. Moi, c'est moi-même qui ai fait la requête, parce que voilà, et on a obtenu presque une dizaine de places gratuites pour ce que s'appelle là-bas Casal, que c'est les centres aérés.
Ouais. D'accord.
Mais il n'y a pas vraiment... Parce qu'en fait, les gens, malgré cette espèce de tolérance espagnole, ils ont quand même tellement peur de se manifester.
Très bien. Dis-moi, que va-t-il advenir de ces personnes dans l'église? Comment tu vois évoluer cette situation?
Moi, je vois que là, maintenant, par exemple, avec la reprise de l'année... de travail et tout, il y a des choses qui commencent à bouger, comme par exemple cette initiative qui est organisée aujourd'hui, dont je parlais tout à l'heure. Il y a pas mal de partis politiques qui sont derrière. On sait déjà qu'après la présentation du dossier à la Generalitat, il y a eu des entretiens avec les services sociaux. Et donc, on pense qu'on a fait tellement de bruit que la chose, petit à petit, va aller à bon fin. Peut-être pas pour tous les 25, bon, nous, on espère.
Bien sûr. Voilà, mais... Et dis-moi, Francesca, de quelle manière les personnes qui nous écoutent ici peuvent-elles, d'une certaine manière, se solidariser? Peuvent-elles faire quelque chose? Ou peut-être rejoindre déjà Swiss Gambia Solidarity, je ne sais pas.
Alors, moi, comme première chose, j'ai dit, bon, il y a une page, par exemple, pour les papiers sans contrato, que tout le monde peut rejoindre. La meilleure des choses, à mon avis, ça serait d'appliquer le même modèle ici en Suisse. On est un pays qui est fait d'étrangers. On est un pays où on a plein de migrants illégaux qui vivent dans des situations affreuses. Ils dorment sous tous les arbres des parcs. Donc, allons occuper une église, par exemple. Non ? Voilà. Puis, moi, j'invite des copains. Et puis, par exemple, aussi devenir membre de Swiss Gambia Solidarity qui... effectue un travail, je peux me permettre de dire à 360 degrés, parce qu'on opère en Gambie pour éviter, parce que tout d'abord, on est pour la libre circulation, mais on veut éviter ces suicides massifs. Voilà. Donc,
d'accord.
Mais on travaille aussi sur le terrain ici à Genève et en Europe.
Ouais. Et puis nous, bien sûr, on en appelle à la solidarité internationale. Renseignez-vous toutes et tous, allez voir sur Internet, allez effectivement voir la page Facebook de Swiss Gambia Solidarity. Là, on trouve des informations. Il y aura peut-être quelques photos de ce périple.
Mais bien sûr, et puis pour bientôt, on va, bon, c'est encore un projet sur lequel on travaille, on va aussi faire une page d'information. Cette page, bon, voilà, ça sera dédié à l'Afrique sous toutes ses formes, à partir de la culture, la politique, l'économie, tout ce qui est africain, mais aussi sur la migration.
Ok. Donc, il y a bientôt des élections en Catalogne. Tu penses que ça peut être, ça peut servir à débloquer quelque chose ou pas du tout?
Si, moi, je pense qu'en fait, les Catalans ont aussi pris ce moment politique pour se différencier de toute la politique générale de l'Espagne. Et donc, ils en ont fait comme une question d'honneur de défendre cette liberté parce que le gouvernement de Madrid agit de façon totalement différente, hein, on le sait. Voilà. Et moi, je rajoute que j'ai connu les Catalans le long de toute cette année en allant plusieurs fois. Et c'est des gens que je soutiens malgré... qu'ils veulent créer un autre État, qui ne me correspond pas tellement, mais bon, voilà, ouais. C'est des gens bien qui méritent, qui ont envie de faire les choses tous ensemble, et à l'écoute des autres, voilà.
Ouais. Et dis-moi, est-ce qu'on arrive doucement à la fin de l'entretien, donc après tu me diras toi si tu as envie de rajouter encore des choses, mais... et puis si parmi nous des questions surgiraient, eh bien n'hésitez pas à prendre les micros. J'ai envie en tout cas de te poser cette dernière question en ce qui me concerne. Y aurait-il moyen d'impliquer la communauté catalane de Genève, parce que à Genève et en Suisse romande, parce qu'il y en a comme... alors je ne sais pas s'ils sont très nombreux et nombreux, mais quelques-uns sont certainement par ici. Est-ce que ça c'est quelque chose auquel vous auriez déjà pensé? Est-ce que vous pensez que c'est du domaine du possible ou pas finalement?
Moi, j'y avais jamais pensé parce que je viens de rentrer en fait des vacances et de cette expérience qui m'a beaucoup travaillé, donc pourquoi pas. Mais moi, une autre fois encore, j'invite tous les gens ici surtout à faire quelque chose pour les sans-papiers de Suisse qui n'ont pas de voix, qui dorment sous les arbres. Ouais. Qui sont exploités au travail, que n'ont pas de certitude que leur enfant, bon, après avoir suivi jusqu'à la secondaire, puisse continuer de vivre dans le pays où ils sont nés. Donc,
absolument.
Voilà.
Alors, concernant ceci, on va en tout cas rappeler deux choses. C'est que, en ce qui concerne Libradio, parmi les centralités de Libradio, il y a le 17 octobre, qui est la journée mondiale du refus de la misère, dans laquelle nous sommes fortement impliqués, avec notamment une structure qui s'appelle le Parlement des Invisibles, où sont en fait conviées toutes les personnes que l'on n'écoute jamais, auxquelles on n'adresse jamais la parole, qui sont les personnes qui vivent dans la rue, et qui forment une sorte de Parlement de Genève bis, miroir du Parlement officiel, et qui... eh bien, propose des décisions qui pourraient aller dans le sens justement d'un meilleur vivre ensemble pour elles et eux et pour tout le monde. Et il y a des votes qui se font à la fin et ensuite ces résolutions, eh bien, sont amenées, évidemment que à titre consultatif, mais sont données ensuite au Parlement, au Grand Conseil Genevois. Ça, c'est parmi les choses qui ont cours ici. Alors, je ne sais pas si des questions surgiraient. J'ai l'impression que pour le moment, c'est non. Francesca, je te remercie déjà beaucoup d'avoir pris du temps puis d'avoir été extrêmement claire sur ce projet. Et puis alors voilà, le mot de la fin, par quoi aurais-tu envie de terminer cet entretien ?
Vive la révolution.
Bah, vive la révolution, c'est un début plutôt qu'une fin, donc nous ça nous va.
Et j'ai envie aussi de passer des salutations à mes amis de Blanes, avec lesquels c'était pas seulement un travail, une expérience, mais c'était aussi des êtres humains. Et donc, je vais faire quelques noms. Modu, Gianco, Rasta, Malan, Abu, Andreu, Tassio, Pedro et tous les autres. Merci beaucoup.
Cool. Et puis, si jamais, tu sais que par exemple, dans certains champs en Calabre, et ils ont monté un truc qui s'appelle Radio Ghetto, où ils font de la radio en 5 langues différentes notamment. Alors je ne sais pas si ça, un jour, ça pourrait surgir à Blanes. Ça peut être un truc intéressant pour voilà, que tout le monde s'exprime, et puis peut-être que ça peut avancer et toucher la population locale, je ne sais pas. On verra.
Bon, pourquoi pas. Moi, je compte d'y retourner. D'ailleurs, en fin d'octobre, j'irai.
Voilà, donc en tout cas, on pourra suivre les informations et l'actualité. Tu pourras nous revenir et nous dire comment les choses évoluent.
Avec plaisir. Et puis, espérons d'ouvrir une bouteille de champagne en honneur de ses amis. À bientôt.
C'est clair. Merci beaucoup.
Merci
Francesca.
À vous. Merci. Ciao, ciao.
Ciao. Alors voilà, nous allons faire une petite pause musicale. Et puis, juste derrière, a priori, je ne les ai pas encore vus, mais ils sont déjà là. Je ne les avais pas repérés. Eh bien, la troisième partie de cette émission, ce sera en compagnie des représentants de l'école vivante, c'est l'école démocratique du canton de Genève. On l'a dit, inspiré de la philosophie Sudbury, tous ces mots-là peut-être font sens, peut-être pas, mais dans quelques instants, eh bien, nous allons les expliquer. C'est parti.
Euskararen gara lokarri azkarra Gau irun honetako gure artizara Zazpiun langirez, sutsu ta ekilez Orain eta geroa ez ditezke berez Konzertunen bidez, musika ez diez Euskari zenta izan abetiko zabitez Zazpiun langirez, sutsu ta ekilez Horaina eta geroa ez ditezke berez Konzertunen bidez, musika ez diez Euskari zenta izan abetik ozabitez Lukata hamburgesa, euskari badesa Gustua gaizea ere zertu gure desa Gertu nahi digute, nikoz abertute Gizakiko nik